Bonjour à chacune, à chacun. Quel sens a ma vie et comment savoir si j'ai la foi? Sacrée question, hein? Quels seraient les critères pour savoir si j'ai la foi? Et puis après, on pourrait faire un ranking de la frate qu'on affichera dimanche prochain, je vous annonce, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis, suspense sera très très fort jusqu'à la fin de la semaine pour savoir qui va sortir premier. Je viens de sortir de classement où ils classaient les facultés de théologie pour savoir quelle était la meilleure faculté de théologie. Et puis, il y a des critères. On aime bien tout classer. Avec cette question de savoir comment ou en quoi j'ai la foi, et surtout de savoir si je l'ai, c'est effectivement le biais qui nous guette, mais qu'on va tâcher d'éviter gaiement ce matin. Comment savoir si j'ai la foi? Ce n'est pas une question biblique, c'est une question qui vient du cours Alpha, qu'on a commencé depuis 2 semaines maintenant. On a déjà eu 2 rencontres, il y a la 3e qui sera la mercredi soir. Et quand on est en recherche, quand on est en question sur Dieu, je trouve que c'est une excellente question que de pouvoir se la poser. Et puis pour des personnes qui sont peut-être chrétiennes depuis très longtemps, je pense que c'est une bonne manière de réaligner peut-être certaines choses, certains éléments, pour se dire qu'est-ce qu'il en est finalement de ma foi, où est-ce que j'en suis. La semaine passée, je vous ai partagé mon cœur sur un texte que j'aime beaucoup, où Jésus prend quelques bouts de pain, quelques poissons et les donne très très largement. Et puis en écho de cette prédication, sans qu'on se soit vraiment consulté, il y a tout un groupe de femmes qui est venu nous partager le message de femmes qui venaient du Vanuatu, c'est-à-dire à l'autre bout de la planète, et qui nous ont apporté une parole, cette morse de pain pour nous ici à Nyon. J'ai trouvé ça magnifique de se dire mais que cette multiplication de la grâce de Dieu, elle est encore réalité en 2021, et on l'a expérimenté la semaine passée. Et ce matin, je vous propose, avec cette question de savoir comment et si j'ai la foi, de prendre la suite de ce que Jésus enseigne à ses disciples, la suite immédiate de ce qui se passe après cette grande multiplication de la grâce. Et on trouve ce texte dans l'Évangile que je nous ai encouragé à lire pendant ce mois qui précède Pâques. J'espère que toutes et tous, on a pu se mettre dans cette méditation-là. Qu'on puisse prendre ce texte qui se situe juste après cet épisode où Jésus distribue largement des pains et des poissons. Luc 9, les versets 18 à 27, vous pouvez suivre chez vous ce passage dans l'Écriture. Un jour, Jésus prie dans un endroit isolé et ses disciples sont avec lui. Jésus leur pose cette question. Pour les foules, qui suis-je ? Les disciples répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es un prophète d'autrefois qui s'est relevé de la mort. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Et Pierre répond, tu es le Messie de Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a envoyé, plus précisément celui à qui Dieu a donné son onction. Jésus leur commande, et ça c'est spécial, sévèrement, ne dites cela à personne. Et il continue en disant, il faut d'abord que le Fils de l'homme souffre beaucoup, on est dans ce temps de Pâques. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui. Ils le feront même mourir. Et le 3e jour, il se réveillera de la mort. Ensuite, Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre. » Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il va la sauver, sa vie. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, ou si elle se détruit elle-même, à quoi est-ce que cela lui sert? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui, quand je reviendrai dans ma gloire et dans la gloire du Père et des anges saints. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu. » Et là, vous avez le droit de dire « Amen » à cette parole. C'est super réactif ce matin, c'est la classe. Ça fait plaisir. Moi, c'est un peu des paroles qui me font « wow, ça explose ». C'est un slogan qu'on retrouve assez souvent. La dernière fois que je l'ai vu, c'est pas plus tard que ce matin en venant à la Frat, où la pub de Sunrise, c'est « wow », parce que tellement il y a des offres commercialement super bien. Là, on n'est pas du tout dans le « wow » commercial, on est dans le « wow » de se dire « les paroles de Jésus, ça déménage hein ». La dernière fois, je vous ai posé la question par rapport au sens que l'on peut donner à sa vie. Où est-ce que l'on va chercher le sens? Puis je vous ai dit que c'était pour nous, les chrétiens, qu'on allait chercher le sens dans les paroles de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes toujours du même avis ce matin, après avoir entendu ces paroles que Jésus nous donne. Ce n'est pas les paroles, je dirais, qui nous caressent dans le sens du poil, hein, dans le bon sens, pour nous faire du bien. Ce n'est pas des paroles qui sont, d'une certaine manière, bienveillantes. Jésus, il n'est pas tout le temps bienveillant avec ses disciples. Ce n'est pas des paroles qui nous disent « bon, ben, continuez votre dimanche tranquille, comme si de rien n'était arrivé ». C'est des paroles qui, d'après moi, nous mettent une certaine forme de stop, c'est-à-dire « alors là, David, où est-ce que j'en suis par rapport à ce que Jésus demande de moi ?» Où est-ce que je cherche mes réponses? J'ai décidé de les chercher auprès de Jésus. Et ce Jésus, voilà ce qu'il me dit ce matin. Des paroles extrêmement fortes, des paroles extrêmement radicales. Et je ne vais pas chercher à les amoindrir ce matin. Je ne vais pas chercher à dire il faut un peu les interpréter de manière différente. Je pense qu'elles doivent conserver, et si vous retenez qu'une seule chose de ce matin, conserver ces paroles de Jésus, j'ai envie de dire, telles quelles. Intactes, avec toute leur puissance et toute leur acuité. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Il dit pas est-ce que peut-être qu'elle va se récupérer par hasard, par ailleurs. Celui qui veut sauver la vie la perdra. Et celui qui décide de la perdre à cause de moi, en portant non pas ma résurrection, mais en portant ma croix, celui-là la sauvera. Je crois qu'on chemine tous différemment avec des paroles aussi fortes, mais elles restent extrêmement fortes. Et je n'ai pas envie qu'en Église, on se dise on essaye de les amoindrir. On essaye plutôt de les vivre avec nos limites, mais on essaye de les vivre pleinement. Jésus, c'est quelqu'un, si on s'intéresse à où on cherche des réponses, c'est bien de savoir un peu quelles sont ses caractéristiques. C'est quelqu'un qui pose des questions, puis je crois qu'il nous pose toujours des questions. Nous, on voudrait souvent des réponses et puis des plans d'action et puis des checklists. On se dit, ben là, il faudrait que je fasse ça, ça, ça en tant que chrétien. Puis Jésus, il est souvent déstabilisant avec ses disciples parce que là où ils attendent des réponses, qu'est-ce qu'il fait, lui? Très fréquemment, si vous lisez les évangiles, il leur pose une question. Il ne les laisse pas avec des réponses toutes faites, un peu recettes micro-ondes. Ils n'ont qu'à mettre leur plat spirituel du jour. Ils cliquent dessus. Deux minutes plus tard, ça sort bien chaud. Il va plutôt leur dire, tu as cette perspective-là, moi je vais essayer de te faire aller plus loin en te challengeant avec une autre question pour te faire aller plus loin. Fondamentalement, vous savez quoi? C'est parce qu'il a confiance dans ses disciples. S'il n'avait pas confiance dans ses disciples, ce serait juste quelqu'un de cynique qui voudrait les faire marner dans leur pataugeoire de médiocrité. Et ce n'est absolument pas son but. Et ce n'est absolument pas son but avec nous. C'est parce qu'il nous fait confiance et qu'il a confiance dans notre capacité de croissance, qu'il va nous challenger et nous pousser dans nos retranchements. Ce n'est pas parce que c'est un cynique qui veut nous montrer à quel point il est supérieur, puis nous, comme on est tout bas là en foi. C'est souvent ce que les chrétiens croient, hein. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il est plutôt là, dessous, et il cherche à nous élever. Et une manière de nous élever, c'est que nous, avec son esprit, nous puissions trouver nos réponses. Et pas, puis là je prends peut-être un peu le contre-pied d'une grande histoire de l'Église, pas que nous récitions notre catéchisme. Ça l'intéresse absolument pas. Je crois un peu des risques en disant ça. Mais c'est quand même assez vrai qu'il cherche des réponses qui viennent personnellement et pas des réponses qui nous auraient été inculquées et qu'on ne fait que réciter. Jésus, c'est aussi un enseignant. Si vous passez une bonne partie de votre mois jusqu'à Pâques sur ses évangiles, vous allez vous rendre compte qu'il enseigne beaucoup de choses. Et là, ce qui est impressionnant, c'est qu'il enseigne juste en quelques phrases. Et sur ces quelques phrases, je pense qu'il y a des rayons de bibliothèque qui ont été écrits. Celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Celui qui la perd à cause de moi, la sauvera. Ce n'est pas un enseignement extrêmement long, hein. C'est même assez rapide. Et pourtant, quelle profondeur, 2000 ans plus tard, on en discute toujours. Et on essaye plutôt de le faire descendre plutôt que d'en discuter. Et finalement, il dit qui il est. Il révèle son identité à Pierre quand il lui dit « Qui suis-je ?» Il lui dit « Je suis celui qui vient de Dieu. » Et je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin, mais pour un juif du 1er siècle, de savoir qu'il y ait une autre personne à côté de Dieu, c'est-à-dire un fils, pour nous ça nous paraît évident parce qu'on se dit « Bon voilà, c'est logique, il y a Dieu, il y a le fils de Dieu. » Mais pour un juif, c'était absolument pas évident puisque Dieu était un, unique et indivisible. Donc là, quand il lui dit ça, « Je suis celui qui vient de Dieu et qui a reçu son onction », c'est une sacrée preuve de force et une sacrée révélation sur qui il est vraiment. Par rapport à notre question de comment savoir si j'ai la foi, la première chose que j'aimerais poser, c'est de savoir que la foi est liée au salut de l'être humain. C'est assez clair dans ce passage, avec ce verset que nous avons déjà pu méditer, « Sauver sa vie ou la perdre ». Et quand on cherche le sens à notre vie, je pense qu'on a tous envie de sauver sa vie plutôt que de la perdre. C'est un peu une question rhétorique. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez envie de sauver votre vie ou bien de la perdre? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui vont me répondre « la perdre ». Et si ça devait être le cas, j'enverrai tout de suite vers Myriam pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Mais il y a une évidence, c'est que le message de l'Évangile nous encourage à regarder vers Jésus pour pouvoir sauver sa vie et ne pas regarder vers nous. Cela posé, comment savoir si j'ai la foi? J'ai discerné dans ce passage trois points. C'est d'abord que la foi est un acte libre. Le deuxième, c'est que c'est un acte d'amour. On l'a déjà proclamé ce matin. Et troisième, peut-être un peu plus compliqué quand on a passé l'âge de 8 ans, un acte d'obéissance. Ouais, 15, hein, disons, 18. Un acte d'obéissance. Est-ce que je me sens en liberté de croire ou non en Jésus? C'est une question fondamentale, parce que la foi en Jésus, sans être libre de croire, ce n'est plus la foi en Jésus. C'est ce qu'on appelle un abus spirituel. Jésus, avec Pierre, il est assez clair. Il pose la question à Pierre et lui offre 100% de liberté de réponse. Il leur dit « Qu'est-ce que les gens disent sur moi ?» Puis ensuite, à Pierre, il le prend à part et lui dit « Toi, qu'est-ce que tu dis sur moi ?» Mais il n'est pas en train de lui suggérer et puis de jouer une petite musique derrière pour savoir la bonne réponse qu'il va devoir sortir. Il y a une liberté de choix qui est claire et fondamentale. Ensuite, cette liberté, elle va toujours avec une responsabilité parce que Pierre va être responsable de la réponse qu'il va donner. Pierre, il va s'engager dans la réponse qu'il donne. Il peut aussi progresser au fil des réponses qu'on donne. Je choisis ou pas de suivre Jésus en étant responsable de ma réponse. Mais cette réponse, elle est complètement libre, puis on peut aussi très bien répondre « pour le moment, j'en sais rien ». Et c'est ce qu'on fait dans le cours Alpha, de rejoindre les personnes là où elles sont. Puis beaucoup de personnes nous disent ben « pour le moment, je ne sais pas encore. Je ne sais pas exactement où j'en suis. Le message est clair, mais ma réponse, d'une certaine manière, je la réserve. » Et je crois que ça nous aide aussi à comprendre cette parole de jugement qui est plus loin dans le texte. Une parole là aussi très dure, qui nous dit que si on a honte de Jésus sur terre, lui, il aura honte de nous plus tard. C'est une parole qui en fait frémir des générations de chrétiens. Et puis, ça peut paraître très paradoxal, parce que je vais parler dans quelques instants que la foi est un acte d'amour. Comment comprendre ces éléments-là? Je crois que cette parole n'est pas là pour nous faire peur, mais bien pour préserver le libre choix. C'est une question délicate que je ne vais que effleurer ce matin. Mais en nous donnant une liberté de choix, il nous donne aussi, Jésus, une liberté de réponse. Il ne provoque pas notre réponse. Et puis c'est pour cela que j'ai de la peine avec des théologies qu'on appelle inclusivistes, qui voudraient dire que de toute manière, quelle que soit notre réponse, Dieu nous prend avec, parce que ce serait une certaine violation de la liberté de choix. Si quelqu'un préfère ne pas aller avec Jésus, je crois que lui, il va respecter ce choix. Ce choix va impliquer certaines conséquences pour lui, mais je pense que Dieu ne va pas aller à l'encontre de la liberté de l'homme. Et on le voit déjà dès les tout premiers chapitres de la Genèse. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève ? Il a donné des recommandations, mais il leur a donné une liberté d'action et de choix, par conséquent, quasi totale. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient dans ce jardin, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Donc je pense que la liberté est une des caractéristiques fondamentales de la foi que nous avons en Jésus-Christ. On pose ce premier élément, comment savoir si j'ai la foi ? Est-ce que je me sens en liberté de croire en Jésus ou non ? Ça implique plusieurs choses, notamment le fait que ça ne peut pas être une foi familiale, par exemple. D'une certaine façon, chacun dans la famille doit faire son parcours personnel avec Jésus, et puis on ne peut pas s'appuyer sur la foi de ses parents pour se dire « moi, c'est quand même pas mal, j'ai aussi reçu une certaine catégorie de la bénédiction ». Jésus nous amène individuellement à aller vers lui, et après on partage cette foi en communauté, bien sûr, mais il nous amène toutes et tous individuellement. Deuxième élément fondamental aussi, c'est un acte d'amour. Est-ce que je ressens un élan d'amour pour Jésus ? Est-ce que je crois en son amour pour moi ? Parce que la foi, ce n'est pas avant tout pouvoir dire précisément un contenu de la foi, c'est avant tout vouloir une relation d'intimité, de proximité avec Jésus. Et là, on est au cœur de l'Évangile, et c'est au cœur de cet Évangile-là qu'on essaie de se situer quand on est au cours Alpha. On n'est pas en train de présenter une succession d'églises ou de succession d'articles de foi. On est en train de présenter la réalité de Dieu qui veut une relation avec chacune et chacun sur la terre. Et c'est ça notre conviction profonde qui nous donne la pêche pour faire des cours Alpha et les organiser. Parce qu'on pense qu'avec Jésus et cette relation d'amour, on va sauver sa vie et pas la perdre. On a cette forme de, je sais pas, de conviction assez forte de se dire, on a quelque chose, quelqu'un plutôt, qui va vous permettre de sauver votre vie plutôt que de la perdre. Ça peut paraître prétentieux hein, à l'heure actuelle de se dire, ben, nous on a, les chrétiens, quelque chose de fort à proposer. Mais on assume cette prétention d'une certaine façon parce qu'on pense qu'effectivement, la relation avec Jésus, c'est celle qui va nous permettre de vivre notre vie pleinement et de sauver notre vie. Et dans la parole de Pierre, moi j'imagine, j'ai déjà imaginé souvent ce dialogue entre les deux, on sent un fort attachement de Pierre envers Jésus et de Jésus envers Pierre. On sent là qu'il y a quelque chose qui se passe quand ils ont ce dialogue-là. On sent qu'il y a une proximité, qu'il y a une relation qui est extrêmement forte et qui gagne encore en intensité par la réponse que Pierre peut donner. On la sent à plusieurs autres niveaux, à plusieurs autres histoires dans l'Évangile. Quand on pense à cette femme qui verse tout le contenu de son parfum qui équivaut à plusieurs mois de salaire et qui le verse gratuitement, complètement, je dirais, à corps perdu sur les pieds de Jésus, on sent aussi là un acte d'amour gratuit qui va au-delà de toute raison, au-delà de tout calcul. Donc il y a quelque chose dans cet amour qui est impossible à mesurer et impossible à observer directement. À l'instar d'une relation qui se vit d'une personne à l'autre, il y a quelque chose qui se vit que dans la relation entre Pierre et Jésus, entre moi et Jésus. Cet amour, il est intime, il est précieux, et il est à préserver. Je dirais même que pas même mon épouse peut observer l'amour que j'ai pour Dieu, pour Jésus. Ça se joue d'abord entre moi et Dieu, entre Dieu et moi, et puis ce n'est pas observable de l'extérieur. Et ça nous renseigne beaucoup par rapport à ce que je disais avant sur le jugement. Il est dès lors pour nous impossible de juger quelqu'un pour savoir si il a la foi ou pas. La question « comment savoir si il ou elle a la foi ?» c'est une question que les chrétiens ne doivent pas se poser. Elle n'a pas lieu d'être. La seule question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment savoir si moi j'ai la foi par rapport à cette relation que j'ai directement avec Dieu. Comment savoir si tel ou tel a la foi? C'est une question qui ne nous concerne pas, dans le sens où on ne saura jamais vraiment la réponse, parce qu'on ne sera jamais au cœur de ce dialogue, comme on n'est jamais au cœur du dialogue entre Pierre et Jésus. Il nous est relaté par des témoins qui ont décidé de le faire, et puis ils ont parlé de cet élément-là, mais quand ils ont eu ce dialogue-là, ils étaient dans un moment d'intimité l'un avec l'autre. Il y a peut-être les disciples qui étaient autour, mais on sent vraiment que là, ils se parlaient les yeux dans les yeux. Donc gardons-nous vraiment impérativement de juger, et puis même, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, de nous faire du souci, parce qu'il peut se passer des choses dans l'intimité des cœurs qui nous dépassent largement et qui nous dépasseront toujours. Comment savoir si j'ai la foi? Est-ce que je ressens un élan d'amour pour Jésus? Est-ce que je crois en son amour pour moi? Et dernier élément, comment savoir si j'ai la foi? Est-ce que je désire suivre Jésus et obéir à ses enseignements? Alors ça, c'est peut-être un critère plus quand on a quelques années au compteur déjà, et puis qu'on est déjà en train de suivre Jésus depuis plusieurs années. Est-ce que je désire toujours, je pourrais rajouter ça pour ceux qui ont long parcours déjà avec Jésus, est-ce que j'ai toujours ce désir de suivre Jésus? Est-ce que j'ai toujours ce désir d'obéir à ses enseignements? Parce que la foi, dans un deuxième temps, et j'insiste bien sur le deuxième temps, implique l'obéissance, et cette obéissance, je pose de suite, qu'elle a deux caractéristiques principales, c'est que c'est une obéissance choisie et non subie, on retrouve la liberté, et c'est une obéissance basée sur une relation d'amour. Donc, comme je vous l'ai dit avant, quelqu'un qui nous fait confiance et qui veut nous faire grandir, en l'occurrence Jésus, et qui veut nous faire grandir dans le sens que nous voulons donner à notre vie. Ça donne clairement le ton de l'obéissance, parce que dès qu'on a la question de l'obéissance, dans notre arrière-tête, qu'est-ce qu'on pense? Soit un maître sévère avec sa règle qui nous tape sur le bout des doigts, un père fouettard qui va faire le bilan de nos actions tous les 6 décembre de chaque année et qui nous fait peur. Donc on a toutes ces représentations-là qui sont extrêmement négatives. L'obéissance en termes évangéliques, c'est cette obéissance qui nous fait grandir, qui nous pousse et qui garde une certaine forme de radicalité. Comme je vous l'ai dit, ces paroles, elles ne nous laissent pas indifférents. Elles sont tranchantes. Ce n'est pas parce que c'est une parole d'amour qu'elle va perdre son côté tranchant. J'espère que vous m'avez compris là-dessus, j'insiste un peu. Mais c'est de se dire, on a vraiment ces deux éléments-là qui sont présents en même temps. On doit compter, et puis c'est ça le sens de la parole, se renier soi-même, on doit compter sur quelqu'un d'autre que sur soi. On fait référence à quelqu'un d'autre que soi-même. Et mon moi-même est transformé par l'arrivée de Jésus dans ma vie. On est en route, ensemble, et puis c'est jamais évident parce que notre moi, il a toujours envie de reprendre le dessus. Là, on n'est pas le premier, on est systématiquement avec Jésus le deuxième. Sinon, c'est impossible de suivre quelqu'un si vous êtes devant lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Si on suit quelqu'un, obligatoirement, on est derrière. C'est basique, hein, mais c'est quand même assez vrai. Puis si on y pense dans notre vie, souvent on se dit, bon, on pourrait prendre quelques petites longueurs d'avance sur Jésus, il va trop lentement, ou bien il ne va pas où je veux, donc de toute manière, je prends la tangente. Hein. Suivre Jésus, ça donne aussi un sens à la vie pour tout ce qui concerne mes comportements, sur le comment est-ce que je vais vivre ma vie de chrétien. Alors je ne vais pas m'étaler, mais ça donne toute cette dimension-là, sur le comment est-ce que je vis ma vie de chrétien. Comment, par exemple, pour reprendre la prière du Notre Père, comment est-ce que j'arrive à intégrer le pardon dans ma vie? Pour moi, ça, c'est une dimension fondamentale. Chaque chrétien, sur le comment, doit se la poser tous les jours. Comment est-ce que j'arrive à intégrer le pardon dans ma vie? C'est la première des demandes du Notre Père. Hein. Il y a le « Donne-nous notre pain ». Puis ensuite, au niveau de « Comment vivre », il insiste sur un élément, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Puis ensuite, il y a « ne nous laisse pas entrer en tentation » qui, pour moi, regroupe tous les autres sujets de la vie. Mais au centre, il y a cette réalité, comment est-ce que je vis le pardon dans ma vie de chrétien? Et ainsi, en conséquence, l'obéissance nous offre cette joie profonde d'être enfant de Dieu. Dernier élément de cette obéissance, Jésus insiste, et puis je vais terminer là-dessus, sur le fait de ne pas avoir honte. comment comprendre ce ne pas avoir honte de Jésus devant les hommes? Et je crois là que c'est vraiment lié avec cette liberté et cet amour dont j'ai déjà beaucoup parlé. Pour moi, ne pas avoir honte, c'est réussir à conserver son indépendance d'esprit et ne pas suivre bêtement un groupe, des leaders, des influenceurs ou qui que ce soit. C'est être au clair sur le fait que j'ai choisi à un moment donné de ma vie de suivre Jésus et puis pas X, Y mode qui pourrait arriver, qui va arriver et X, Y réponses qui nous seront proposées ces prochains mois lorsqu'on va sortir de la crise. C'est un critère assez intéressant pour nous qui vivons dans une société sécularisée. C'est-à-dire le fait où, dans notre société, le fait de croire en Dieu, c'est bizarre. On nous prend toujours un peu pour des illuminés quand même. Croyez en Dieu, on ne sait même pas s'il existe ou bien pas, on ne sait même pas s'il est encore actif ou pas. C'est un truc qui ça jouait bien il y a 200 ans, mais maintenant, il ne faut pas déconner. Donc, on est minorisé, on est mis sur la touche. On est bizarre avec notre élément de se dire « on veut suivre Jésus ». Donc, ne pas avoir honte dans ce contexte-là, je pourrais faire toute une prédication dessus aussi. Nous dire, mais comment est-ce que je n'ai pas honte dans ce domaine-là, sachant que je suis bizarre? Alors, évidemment, on va me dire qu'il est préférable de rester discret, ne pas trop parler de Dieu, mais je nous laisse quand même un challenge parce qu'il y a un « mais » d'après moi là. J'ose nous interpeller, et moi avec cette question de savoir si j'ai la foi, et la savoir si j'ai la foi concernant aussi cette discrétion. Cette discrétion est-elle pudeur ou est-elle honte? Est-elle discrétion ou est-elle que tout à coup je me retrouve dans une situation inconfortable et que j'ai honte? Là, de nouveau, je ne vais pas réussir à répondre à votre place. Mais pour moi, elle est pertinente, cette question. Parce que la tension et puis la ligne de crête entre les deux, elle est extrêmement fine et ténue. Ce n'est pas si évident que ça de se dire si certaines fois je me retire pour cause de discrétion et de pudeur ou si je me retire parce que j'ai un peu honte de mon appartenance et de ma suivance. Ce n'est pas évident, c'est un vrai challenge pour nous en tant que croyants. Et là, comment savoir si j'ai la foi? On est clairement au cœur de cette dimension de l'obéissance. Est-ce que je suis prêt à obéir jusqu'à finalement passer outre ma honte sociale par rapport à un groupe, par rapport à certains malaises que je peux éprouver. C'est des sacrés critères. Hein. On est en route là-dessus, on y va avec qui on est, mais je pense que la radicalité du critère, elle reste valable. Pour terminer, je vais aller là-dessus parce que c'est le cœur de l'Évangile, puis c'est le cœur de ce qu'on annonce aussi dans le cours Alpha. Et je nous laisserai, avec le musical qui va venir tout à l'heure, méditer tout cela. Je suis conscient que c'était un peu une prédication dense ce matin, avec beaucoup d'éléments, avec beaucoup de charges finalement, seulement sur quelques versets de la Bible. Hein. Je n'ai pas pris un long passage. Par contre, j'ai pris un passage qui était extrêmement dense. J'en suis conscient. Et si je devais sélectionner, c'est ma question quand même principale, est-ce que je ressens cet élan d'amour pour Jésus et est-ce que je crois en son amour pour moi? Alors, je nous laisse ces questions. Soyez bénis aussi chez vous. Prenez ce temps qui nous est offert maintenant, cet espace qui nous est offert maintenant pour nous situer par rapport à cette question et ces questions qui peuvent véritablement changer le sens de nos vies. Amen.